dans Galates au chapitre 6 et au verset 4, vous allez comprendre un petit peu mieux ce matin l'orientation des offrandes. Je voudrais que vous écoutiez bien, surtout ceux qui sont légers avec la dîme et surtout avec les talents que Dieu vous a donnés. Vous allez bien comprendre cette affaire. Galates chapitre 6, verset 4. Que chacun, vous voyez, la vie spirituelle, c'est un corps, et en même temps, c'est personnel. Que chacun examine ses propres œuvres. Tout à l'heure, on a examiné notre âme, maintenant, il faut examiner ses œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Le mot signifie la responsabilité. Dans l'Épître aux Romains, juste avant, au chapitre 11, il y a un verset que je cite souvent d'une façon ou d'une autre, à savoir que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, et que les gens intelligents, eh bien, ils acceptent ces deux aspects. Romains chapitre 11, verset 22, c'est quelque chose qui doit être non pas seulement écouté, mais considéré. Considéré, ça veut dire qu'on prend vraiment du temps, comme les savants, vous savez, avec les microscopes qui cherchent à savoir ce qu'il y a. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Et maintenant, le texte qui nous préoccupe, c'est une parabole. Dans un contexte particulier, j'essaierai de vous l'expliquer, quoique je n'ai pas trop de temps ce matin. Dans Luc au chapitre 16, et au verset 1er, Jésus va s'adresser, alors regardez bien, il est dit, il s'adresse à qui? Jésus 16, verset 1er, Luc 16, verset 1er, Jésus dit aussi à ses disciples. J'entends les pages qui tournent, prenez le temps, parce que c'est un texte qu'on n'utilise pas souvent. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Luc chapitre 16, verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sa mesure d'huile, » répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« Sa mesure de blé, » répondit-il. Et il dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle, n'oubliez pas, c'est Jésus qui parle, notre Seigneur, le Seigneur. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Dans cette parabole, nous l'avons vu au début, Jésus parle aux disciples. Par exemple, dans le chapitre 15, c'est bien que vous compreniez, je sais que ça fait, c'est un peu pastoral, mais ça ne fait rien. Au chapitre 15, Jésus s'adresse non pas aux disciples, mais à des religieux, à des pharisiens et à des scribes. Vous avez vu 15, verset 2, Jésus ne s'est pas toujours adressé au même auditoire. Parfois, il s'adresse aux disciples, donc ce texte qu'on vient de lire concerne vraiment l'Église. Le chapitre 15 concerne vraiment les religieux. Des gens qui murmuraient, des gens qui n'étaient pas bien, et pourtant qui avaient une super religion. Jésus s'adresse à eux. Il faut comprendre. Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, il parle aux uns, il parle aux autres. Il est certain que ce matin, si vous n'êtes pas chrétien, Dieu vous parlera d'une certaine façon pour que vous arriviez au calvaire et que vous compreniez qu'avant même d'obtenir telle ou telle chose, il faut que vous vous prépariez à le rencontrer. S'il y a des religieux, des gens qui font du cinéma, des hypocrites, eh bien le Seigneur parlera d'une manière. Et là, après avoir dit des choses sévères à ces religieux, Jésus va donc parler à ses enfants, à nous, à l'Église. Car si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes l'Église. Il parle avec sévérité, ça fait partie des textes que l'on peut mettre dans la catégorie des textes, des sermons qui sont sévères. Ça a été dit avec beaucoup d'amour, bien entendu, mais ça vaudrait la peine justement de faire une différence entre l'amour et la faiblesse. Vous savez, dans les annonces que je vous ai faites, vous comprenez bien que je réfléchis beaucoup à certaines choses que je dois dire, non pas à vous, mais à d'autres personnes. Mais ne pas dire les choses lorsque c'est nécessaire, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour ou de la faiblesse? Aujourd'hui, on parle à tort et à travers, je vous l'expliquerai bien dimanche. On parle à tort et à travers de l'amour et de l'unité. Je peux vous le dire, vous le comprendrez bien, vous comprendrez bien cette parole. Au nom de l'amour, au nom de l'unité, on accepte n'importe quoi, n'importe quelle nouveauté, n'importe quel vent de doctrine. Il y a des chrétiens qui ne sont pas capables de savoir si telle chose est biblique ou pas. C'est archi grave. N'importe quelle alliance, je pensais parler, je n'ai pas le temps, de Abraham et avec Abimelech, l'alliance qu'il a faite. Vous avez vu ça, il faut faire attention, même les plus grands se sont fait avoir. L'amour de Dieu n'accepte aucun compromis. L'amour de Dieu accepte la vérité. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. L'amour est basé sur la justice. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Alors Jésus va utiliser cette parabole après avoir parlé sévèrement à des religieux, il va expliquer quand même que nous les chrétiens, c'est bien joli de faire des paroles. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, parce que quand même il y avait des pasteurs aussi. Et je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, c'est difficile, on n'y était pas. Les choses ont changé en plus. Et le Seigneur, dans sa tendresse infinie, va parler à l'Église comme il doit lui parler. Il sait parler à l'Église, le Seigneur. Lui, il sait. Nous, on ne sait pas. Nous, on utilise souvent la chair pour régler des comptes, ce qui est une catastrophe. Catastrophe. Mais le Seigneur, lui, il sait parler. Il parle même de choses parfois qui nous étonnent. Pourquoi Dieu va utiliser l'image d'un économe infidèle? Pourquoi dans Luc 18, il va se comparer à un juge inique? Pourquoi dans une autre parabole, il va parler d'un ami qui n'en est même pas un? En fait, il y a des choses qui nous étonnent. En tous les cas, le Seigneur, lui, il veut nous enseigner certaines vérités. Là, il parle d'un homme qui dissipe ses biens. Alors, la parabole commence là. Un homme qui trafique. Si nous comprenons bien que cette parabole est pour tous les chrétiens, donc pour nous, nous aussi, nous devons nous interroger sur la façon dont nous faisons valoir les biens que le Seigneur nous a confiés. Vous allez me dire, mais ça c'est le travail du conseil par rapport à l'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, il y a chaque talent, chaque don, chaque ministère que nous avons tous reçu du Seigneur, si nous nous sommes appliqués à découvrir. nous sommes tous des économes. Tous nous avons reçu, je n'ai pas le temps, mais tous nous avons reçu des talents, la parabole des talents, la parabole des mines au chapitre 19. On le voit bien au chapitre 19 au verset 13, Jésus dit, mais faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Vous croyez que Jésus va revenir ? Donc, chacun d'entre nous, et puis après collectivement, nous avons reçu des dons, des talents, et Jésus va revenir, et on l'a lu tout à l'heure, chacun rendra compte. Tout est accompli, que le nom du Seigneur soit béni, mais l'Église, elle, doit faire valoir tout ce qui est du royaume des cieux. Cet après-midi, nous avons un service de baptême où la prédication de la croix sera annoncée. Faire valoir les talents, c'est également travailler à l'évangélisation des âmes, oui ou non ? Voilà. Tout est accompli, mais Dieu a mis sur l'Église, sur toute l'Église, ce devoir, cette responsabilité, cette grâce de travailler à l'évangélisation. Est-ce que nous travaillons à l'évangélisation de notre ville, de notre famille ou des gens que nous côtoyons ? Est-ce que nous travaillons à la prédication de la repentance ? Ça s'adresse aux prédicateurs. Est-ce que nous y travaillons ? Est-ce que nous réalisons l'appel que Dieu a mis sur chacun de nous ? Est-ce que nous sommes soucieux d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance ? Ou est-ce que ça vous préoccupe absolument pas ? Sincèrement, si avancer dans les œuvres que Dieu a préparées, soit pour l'Église au niveau collectif, corporatif, soit au niveau individuel, moi je vous conseille de vous mettre à genoux joyeusement, dire « Seigneur, montre-moi ». Nous devons savoir ce que nous avons à faire. Le bonhomme qui a enfoui le talent dans la parabole et qui s'est vu exclu du royaume est quelqu'un qui représente tous les chrétiens qui ne s'intéressent absolument pas à faire valoir leur vie pour le royaume des cieux. Si l'Église, si un chrétien, écoutez-moi bien, frères et sœurs, si un chrétien ne fait pas valoir ces choses, il ressemble à l'économe infidèle. Donc, si nous pouvons nous autoriser, en tous les cas, si moi je peux le faire, de manière très solennelle, à apporter certains propos par rapport à des serviteurs de Dieu qui sont loin des clous, nous devons, nous, en tant que chrétiens de cette Église, nous interroger sur les responsabilités que nous avons reçues chacun. Toute l'Église, tous les chrétiens, Fatima, cet après-midi, fera partie du corps de Christ. Je sais, pour avoir discuté avec elle, qu'elle a le souci de chercher la pensée de Dieu. Quand on est jeune chrétien, on est zélé pour ça. Quand on commence à s'installer paisiblement dans l'Église, on finit par l'oublier. Et c'est pour ça que Jésus, d'une manière assez sévère, s'adresse aux disciples, après avoir parlé aux pharisiens, qui eux avaient été repris, bien sûr, sévèrement. Faire valoir ses talents. Dont le maître appelle cet économe, le maître représente Dieu, l'économe représente un serviteur, un chrétien, et il lui pose la question, mais qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Qu'est-ce qu'on dit de vous ? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous, de moi ? Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Alors, le maître, voulant aider son serviteur qui n'est pas bien, lui dit, il te faut rendre compte maintenant de ton administration. Ce sont des paroles que Jésus a prononcées aux disciples. Elle est là dans la Bible, c'est pour tous les chrétiens. Donc, le Seigneur peut nous dire la même chose à chacun, à vous et à moi. Mon fils, tu devras rendre compte de la façon dont tu as administré le talent que je t'ai donné. Je sais que certains chrétiens sont à mille lieues de réfléchir à ces choses et qu'ils ne sont pas du tout conscients. Les vierges folles dont le Seigneur parle dans la parabole, qui est une prophétie, représentent tous les chrétiens qui n'en ont rien à faire de ça et qui sont profondément en danger. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Est-ce que c'est écrit ? Oui. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 12, pour ceux qui prennent des notes. Ne le cherchez pas, 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça n'a rien à voir avec la condamnation, ça a à voir avec le fait de rendre des comptes. La condamnation, c'est la perdition. Le tribunal de Christ, c'est devoir rendre des comptes pour l'administration. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun, c'est drôle parce que nous sommes le corps, mais cette affaire-là est strictement individuelle. Chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous l'avons lu dans Galates, que chacun examine ses propres œuvres. Vous voyez, je ne sais pas comment vous réagissez. Est-ce que vous aimez ces textes, au fait ? Dites, tiens donc, répondez-moi. Est-ce que vous aimez ces textes ? Mais c'est vraiment une question sérieuse, ce n'est pas du tout pour gêner qui que ce soit. Mais je ne suis pas du tout sûr que tous les chrétiens aiment vraiment aborder ces paroles du Seigneur, parce qu'elles, quand même, elles nous font réfléchir normalement. Elles nous font vraiment réfléchir. Chacun rendra compte à Dieu. Il faut que ça soit une grâce, mes frères et sœurs. Il faut que ce moment où nous allons comparaître devant Dieu, certainement dans des habits éclatants, etc. Peut-être vous dites, mais monsieur Gaud, tout ça c'est virtuel. Oui, mais c'est vrai. Quand dans l'Apocalypse, Jésus dit, je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est vraiment personnel. C'est vraiment personnel. L'Église, les chrétiens, ont une responsabilité. La liberté, bon, ce n'est pas le sujet, mais la liberté est basée sur la responsabilité. Il y a des gens, vous voyez, qui sont très simples et qui disent, mais pourquoi Dieu n'a pas créé que le bien ? On l'entend souvent, ça. Pourquoi Dieu n'a pas créé que le bien ? Si Dieu n'avait créé que le bien, nous étions des esclaves, nous n'aurions pas pu choisir. C'est un sujet peut-être qui vous dépasse, mais laissez-moi vous dire que pour être libre, il faut choisir entre le bien et le mal. Que ferais-je ? Cet homme, il est interpellé, c'est sévère. Il se rend compte que son maître va agir, qu'il y a un temps où il nous faudra rendre des comptes. Alors il se pose la question, que ferais-je ? D'ailleurs, c'est le titre de ma prédication, que ferais-je ? Et entre parenthèses, j'ai mis l'économe infidèle. Que ferais-je ? Que dois-je faire ? Dans la Bible, on le voit souvent, des hommes qui ont posé cette question, quand Saul de Tarse est confronté à cette lumière du Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On le voit, les soldats, c'est pas au sermon sur la montagne, c'est quand Jean-Baptiste prêche, les gens sont saisis par la prédication, et certains disent, mais et nous, que devons-nous faire ? C'était des soldats, des gens qui étaient là pour tuer. Contentez-vous de votre solde. Et la foule, et nous, que devons-nous faire ? Et le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On pourrait prendre tous les textes où on voit des personnes qui se sont approchées de Dieu d'une manière intelligente et qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, l'économe infidèle, il est arrivé un moment où il sait que le temps lui est compté et il pose vraiment cette question, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est une question que nous devrions nous poser tous, régulièrement, je pense. Vraiment. Alors, il est dit, quand il apprend qu'il doit rendre compte de son administration, que ferais-je ? Que ferais-je ? Il rentre en lui-même, vous voyez. L'économe dit en lui-même. Vous savez, c'est beau quand on rentre en soi-même. C'est beau si une prédication comme celle-ci vous fait réagir, même si elle est sévère, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que moi aussi, je rentre à moi-même, je parle du culte et je passe à autre chose. C'est telle activité qui m'intéresse. Et moi, je vous conseille de faire attention, mes frères et sœurs. je dois rentrer à moi-même, il a un délai, Dieu lui donne, le maître lui donne un délai, rend compte de l'administration, ça veut dire qu'il a un temps pour le faire. Mais mes frères et sœurs, nous aussi, nous avons un certain temps, un temps qui va jusqu'à notre mort. Nous avons sur la terre un délai. Je ne sais pas quel âge vous avez, quand est-ce que le Seigneur va vous reprendre, est-ce que vous pouvez me dire à quel âge, le jour où Dieu va vous reprendre? Non, personne ne sait, heureusement. Nous avons ce délai, nous aussi. Tiens, il me reste, si le Seigneur revient bientôt, eh bien, il nous reste ce laps de temps pour rendre compte de notre administration. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, les paraboles, c'est d'une simplicité. Je sais que celle-là, elle est un peu ardue, mais quand même, c'est ça que ça veut dire. Tiens, moi aussi, j'apprends qu'il me reste un temps à vivre sur la terre, dont je dois rentrer à moi-même et prendre ça au sérieux. Je viens écouter la parole de Dieu dans cette église, mais quand même, je ne sais pas si je suis soucieux de cette affaire. Oui, non, on a un délai aussi. Il réfléchit, parce qu'on réfléchit, Dieu nous a donné un cerveau, et il est là, travailler à la terre. Non, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas travailler à la terre. Mendier, non, mais pas possible, encore moins, j'en aurais honte, vous voyez. Cet homme, il sait qu'il était appelé à faire quelque chose et il faut qu'il le fasse. Nous aussi, mes frères et sœurs, ne commençons pas à faire des plans sur la comète et en disant il faut faire autre chose. Non, il faut faire ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ma responsabilité à moi de vous le dire. C'est à vous, chacun, on l'a lu dans les textes, c'est à chacun de vous de dire voilà, j'ai à cœur cela. Je devrais quand même dans l'église faire valoir un, deux, trois talents. Peut-être que vous en avez même plus, tant mieux. Mais commençons déjà à penser à l'avenir. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il dit ? Il est tordu, ce gars. Mais enfin, je veux dire, avouons la vérité. Soyons honnêtes. C'est peut-être facile de s'identifier. Regardez, je sais ce que je ferai, verset 4. Il pense à l'avenir, et il faut penser à l'avenir, il faut être intelligent. D'ailleurs, on va voir combien le maître va apprécier sa réaction. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, il sait qu'il va perdre son boulot, donc il va se mettre à faire un calcul pour trouver un emploi. Et il se met à diminuer la dette, ou plutôt le loyer des débiteurs. C'est ce qu'il va faire. Alors pourquoi le maître loue-t-il l'économe infidèle ? C'est maintenant que nous sommes très intéressés. Pourquoi le maître loue-t-il cet économe infidèle ? Bien sûr que vous comprenez bien que le maître ne loue pas la malhonnêteté de l'économe. Vous le comprenez bien. Mais il loue, c'est-à-dire quand on dit qu'un autre te loue, c'est-à-dire que non, quelqu'un te fasse des éloges. On peut louer quelqu'un. Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Qu'un autre te loue et non ta bouche. Une fois, j'avais dit ça dans une église, il y a une femme qui est venue, elle me dit, monsieur, vous vous rendez compte ce que vous avez dit ? La Bible dit, tu n'adoreras que Dieu. Et vous avez dit qu'on pouvait adorer quelqu'un. J'ai dit ça, moi ? J'ai dit qu'un autre te loue. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. On peut louer quelqu'un pour son travail, etc. Bien sûr qu'on n'adore que Dieu. Si vous adorez le chocolat ou vos petits-enfants, je vous conseille de trouver un autre mot qui certainement est plus à propos. On l'entend ça ? Oh, mes petits-enfants, je les adore. La glace au chocolat, j'adore. Écoutez, dites que vous appréciez, que c'est super bon. Mais s'il vous plaît, n'utilisez ce mot que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, le maître loue cet homme pour l'intelligence. Écoutez bien, c'est ça qui nous préoccupe à nous, parce que loin de nous la pensée de nous traumatiser par rapport à des défauts qui sont les nôtres. Notre réaction doit être intelligente. La Bible dit surmonte le mal par le bien. On n'est pas là pour faire une espèce de procès par rapport à ceux qui ne font pas valoir leur talent, à moins que vous restiez là-dedans. Mais si tous nous sommes intelligents, l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter à de nouvelles situations. C'est ça la définition de l'intelligence. Ce n'est pas avoir un cerveau à quatre étages, c'est avoir la capacité de s'adapter. Donc, le maître loue cet homme, il dit, cet homme, il est intelligent, il fait preuve de réaction par rapport à son avenir. Et là, il va dire quelque chose qui est terrible pour l'Église, enfin pour les chrétiens, au verset 8. C'est une parole que Jésus a utilisée, c'est-à-dire que lui qui l'a utilisée. Les enfants de ce siècle, bon, il agit en homme avisé, donc il réfléchit. Il se dit, attends, c'est vrai, j'ai un délai. comme nous. Les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. Moi, j'ai failli écrire au crayon à papier parce que des fois, je fais des petits commentaires. Quelle honte! J'ai failli l'écrire, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, n'oublions pas, il est le Seigneur, il sait ce qu'il doit nous dire. D'une manière, tout est intelligent, vous le savez. Moi, quand j'entends des chrétiens qui disent « oui, Dieu n'aurait jamais dû dire ça », franchement, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Si vous parlez comme ça, laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas Dieu. Donc le Seigneur, il montre que les enfants du monde sont parfois plus avisés, plus prudents, et qu'ils réfléchissent plus que les chrétiens. Pourquoi ? Ne lui dites pas, mais... Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent faire valoir leur affaire. Dans le monde, il y a des gens qui veulent faire valoir leur job, leur entreprise. Est-ce que vous comprenez ? Ça tient debout en plus. Est-ce que nous, les chrétiens, nous ne devrions pas être un petit peu plus sérieux ? Parce que c'est sûr que nous, notre mouvement a beaucoup avancé dans la prédication de la croix et par contre-pied à l'Église catholique, il a bien fait à dénoncer tout le salut par les œuvres, et nous on est tombés dans la foi, le salut par grâce. Mais mes frères et sœurs, la Bible nous parle souvent de nos responsabilités, des œuvres, des plans, etc. Et là, il y a eu un... Bon, ça peut arriver, ça c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous ne devons pas être un peu plus soucieux de faire valoir l'Église, les talents? Faites-vous des amis, verset 9. Alors écoutez bien ce verset. Je sais que ce verset a été interprété n'importe comment. Mais je vais vous l'expliquer. Faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Les richesses injustes, c'est quoi ? L'argent de la terre, l'argent. Il est utilisé comment ? Vous avez vu, moi j'entends parler, l'autre jour on me disait qu'il y avait le patron de telle entreprise qui avait 160 milliards. 160 milliards, pas millions, hein. Ça fait que le gars, vous lui enlevez 50 ou 60 milliards, il ne s'en rendra même pas compte. Là, vous avez la perception vraiment de la gravité de la situation sur la terre. Parce que la Bible parle des riches et des pauvres. Le pauvre et le riche se rencontrent. Ce n'est pas interdit d'être riche, ce n'est pas interdit d'être pauvre. C'est tout à fait normal. Même dans les cieux, il y aura des rois et des serviteurs, etc. Le monde utilise l'argent d'une manière déséquilibrée, c'est pour ça que beaucoup de gens s'enrichissent et que ça provoque encore plus de pauvreté pour ces gens qui sont privés de cet argent qu'ils auraient pu obtenir. Bon, je ne vais pas commenter là-dessus, ça ferait un peu politique. Mais regardons comment les riches utilisent leur argent. D'ailleurs, il y a des prophéties sur les riches à la fin des temps, moi je ne voudrais pas être à leur place, hein. Donc ils excluent les autres. Les gens qui possèdent vraiment des grandes richesses excluent les autres de la possibilité de vivre bien. Donc Jésus parle des richesses injustes, le monde qui travaille pour des richesses injustes, et il parle en même temps des richesses véritables. Et c'est ça qui nous intéresse. Faites-vous des amis avec des richesses injustes, c'est quand même difficile à comprendre, j'en conviens. Mais, écoutez-moi bien, pour comprendre, il faut que je vous dise ça. Les rachetés, les chrétiens, les élus, Jésus dit qu'il viendra chercher les élus, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel, comme si ce matin vous répondez à l'appel qui est caractérisé par cette prédication, vous êtes un élu. Si vous dites « oui, c'était compliqué, j'ai rien compris », c'est parce que vous ne voulez rien comprendre. Et que vous vous enfermez dans la désobéissance, ça c'est clair. Je ne suis pas fan de la façon dont je vous le dis, mais c'est la vérité, je n'ai pas beaucoup de temps. Les chrétiens qui obéissent, c'est clair, c'est écrit, ils régneront avec lui. C'est écrit ? C'est écrit 2 Timothée 2,12. C'est même, ça va beaucoup loin, Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Nous ne nous rendons pas compte, mais les véritables chrétiens jugeront le monde. Nous jugerons même les anges déchus. C'est écrit. Donc, dans le ciel, écoutez bien, mes frères et sœurs, par rapport à la façon dont on va être reçu dans les tabernacles éternels. On n'en parle pas souvent parce que c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier que quand nous allons partir, nous allons être reçus dans le ciel. Vous ne vous y pensez peut-être pas, mais on va être reçus dans le ciel. L'argent, les richesses injustes, l'argent du monde, c'est l'argent du monde. Si les chrétiens l'utilisent bien, cet argent que vous avez mis dans les corbeilles, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent du monde, qui va devenir l'argent de l'Église. Et l'argent de l'Église devient l'argent du Seigneur. Vous me suivez? Il peut servir cet argent qui est là à des richesses véritables maintenant. Maintenant qu'il est là. Et il faut employer l'argent pour le royaume de Dieu. Tout l'argent. Quand on aide M. Bordeneuve et Mme Bordeneuve, quand ils partent au Niger, et qu'on les appelle, et qu'ils nous disent, Assemblée de Saint-Agne, on aurait besoin de 4 tonnes de mil parce qu'on va aller évangéliser un village dans le nord du Niger. C'est des villages où les gens meurent de faim. On ne peut pas aller prêcher l'évangile sans apporter à manger. Est-ce que c'est normal là? Ben oui. Cet argent qui a été recueilli, cet argent de Mammon, pour reprendre le dernier verset, cet argent de Mammon va devenir la possibilité de faire des richesses justes. Et des âmes qui sont sauvées, je ne sais pas combien M. Bordeneuve a fait de baptêmes au Niger, il avait parlé de 1000 et quelques baptêmes. Ces gens-là ont été sauvés parce qu'un homme a administré ses biens, son talent avec son épouse, et ils sont partis dans le désert avec des difficultés, des épreuves tant et plus. Mais nous, Saint-Agne, qui avons le souci de faire l'œuvre de Dieu, nous avons dit cet argent que nous recevons par les gens du monde, par les patrons qui nous salarient. Nous l'utilisons, cet argent injuste, nous allons le transformer en juste richesse. Et par exemple, c'est simple ce que je dis, mais il doit y avoir déjà des hommes et des femmes qui au Niger ont été sauvés par la parole de Dieu, par la prédication de la croix, parce que le frère Bordeneuve a fait valoir le talent qu'il avait reçu. Ces gens-là sont partis dans la gloire et il se peut, écoutez, moi c'est comme ça que je comprends, je ne suis pas un théologien, mais sérieusement, c'est quand même assez facile à comprendre, il y a des gens qui vont vous recevoir dans les tabernacles éternels. Grâce aux richesses injustes qui se sont transformées en argent juste. Si on le fait valoir, comme il faut le faire valoir. Donc c'est personnel, c'est corporatif, c'est merveilleux, à condition que nous nous posions bien la question, à quoi sert l'argent quand on forme des pasteurs? Je pense au pasteur qui est parti à Moissac ou à Saint-Gaudens, deux églises littéralement liquéfiées par la désobéissance, en 2-3 ans, ce sont deux églises qui se sont remplies d'hommes et de femmes, avec l'argent que nous avons donné à l'église, l'argent que nous avons reçu de la main, peut-être même des païens, nos patrons païens, c'est pas du tout péjoratif. Nous l'avons transformé en richesse juste. Et des âmes qui ont été sauvées par la prédication de la croix, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même lié à l'argent, même si Dieu pourrait s'en passer, mais en fait c'est comme ça, contribuent à ce que vous soyez certainement très bien accueillis dans les tabernacles éternels. Vous comprenez combien il s'est bien de prier pour les conseils d'administration? Lorsque ce bâtiment a été acheté, un autre exemple, il y a combien que ce bâtiment a été acheté? 70 ans? Qui c'est qui était là il y a 70 ans? Bon, Monsieur de Dieu n'est pas là ce matin, ça aurait été chouette qu'il nous le dise. Monsieur de Dieu, Monsieur Lafayette, Monsieur Bessaguet, il faut comprendre les choses parce qu'il faut que ce soit archi pratique. Il y a 60 ans, c'est à peu près, non? Quand je suis arrivé à Sainte-Anne, ils avaient fait le jubilé.
Non, le jubilé, c'est 50 ans.
S'ils ont fait le jubilé avant que j'arrive, il y a 20 ans, donc ça fait 70 ans, le temps passe vite. Enfin, écoutez, qu'importe. On va pas passer le culte. Mais ça doit être ça. On vérifiera. Bon, c'est pas grave. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand les chrétiens ont acheté ce bâtiment qui était une grange il y a un siècle, qui est devenu un atelier de peintre il y a quelques années, ce bâtiment, il faisait partie des richesses injustes. Et M. Lafayette, par exemple, il y a quelques décennies, avait l'Église qui était soucieuse de l'école du dimanche, de, etc., de, du royaume de Dieu, acheter la maison, comme on a acheté la maison à Saint-Aurès il y a 10 ans, 11 ans, eh bien pour investir, parce que si, parce que là, vous savez comment ça a marché. Mes frères et sœurs, nous le faisons pourquoi ? L'avenir, ce local que nous nous préparons à préparer pour accueillir des âmes. On ne fait pas un local pour avoir une église plus jolie. On fait un local parce que Dieu nous demande d'administrer les biens de l'église. Et si vous n'avez pas compris, si vous n'aviez pas compris cette affaire de faire valoir les richesses que Dieu nous a confiées, je vous conseille de demander de l'aide à Dieu. Parce que ce qui est fait ici dans cette église, je peux vous dire que c'est fait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et que l'argent, il est utilisé pas pour faire du social, à part en Afrique, parce que ça n'a rien à voir, mais en France, c'est autre chose, on le fait quand même. L'argent est utilisé pour faire valoir le royaume de Dieu. Et nous pourrions prendre des exemples, mais tout cela se retrouvera au ciel, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ça va très loin, puisque Jésus dit même que un verre d'eau froide, c'est-à-dire la plus petite chose que vous pouvez faire. Une sœur me disait, il y a quelques années de ça, elle me dit, « Monsieur Goum, quelle honte j'ai. » Elle me parlait de ces obstacles à la prière, et je me suis permis, parce que des fois c'est vraiment un obstacle, c'est biblique ce que je vous dis. Il y a des gens qui volent Dieu. C'est archi délicat, parce qu'en France on est vraiment avare, et on est lié, il y a un problème avec l'argent. Oui ou non ? Comme en Afrique, il y a un problème avec le titre. Oui ou non ? Ben ouais. Voilà, mais c'est pas un drame. Il faut le gérer. Et cette sœur me disait, mais j'en ai honte, je suis capable d'acheter 10 euros de bonbons pour mes petits-enfants. Bon, ben ça, je comprends. Et je ne suis pas capable de donner la même somme à l'église le dimanche. Elle était convaincue de péché, en vérité. Parce que il faut comprendre dans la sévérité de cette parabole. Moi, je la porte avec mon caractère et ma personnalité. Bon, vous me connaissez. Jésus devait le faire avec une classe, une grâce que nous n'avons pas, nous. Mais l'enseignement que je vous apporte est celui-là. Mes frères et sœurs, soyons fidèles. Il le dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes. Et ne faites pas ce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, Monsieur Gros, je serai fidèle dans un grand ministère. Mais j'ai dit, mais commencez à être fidèle dans un petit service. Parce que moi, je ne vois pas comment on pourrait être fidèle dans de grandes choses si on n'est pas capable d'être fidèle dans des petites. Il faut être sérieux. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, même si je sais qu'il aurait dit mieux que ça. Mes frères et sœurs, on va partir bientôt. C'est peut-être des Nigériens qui vont vous accueillir, ou des Indiens, des Africains, des ex-musulmans. Moi, j'ai eu la grâce de pouvoir passer dans plein d'églises, et quand j'entends, mais Monsieur Gau, je suis venu au Seigneur à Toulouse, je faisais mes études, et j'ai donné mon cœur à Jésus. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment qui a été acheté avec de l'argent, du monde, est devenu l'argent du Seigneur, et ça a servi à faire valoir les talents. Quand on enregistre, il faut le comprendre, ceux qui travaillent à l'enregistrement, j'espère que vous priez pour ça. Un jour, j'étais dans une église prêchée, j'étais mangé dans la campagne, c'était perdu. Et il y a une femme, quand elle m'a vu, elle était toute tétanisée, parce qu'elle ne me connaissait pas. Et elle me dit, Monsieur Gou, je suis infirmière, je me suis converti dans ma voiture en vous écoutant. J'étais désespéré. Et on m'avait donné un CD et j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Les CD, C'est fait pour quoi les CD ? Pour écouter de la musique du monde. Nous, nous les achetons et nous les convertissons en moyens, en des richesses justes. Vous comprenez ? Vous comprenez ce que Jésus enseigne ? Et quand vous donnez votre dîme, vous devez, quand vous faites quelque chose, mes frères et sœurs, je vous en supplie, comprenez que si nous le faisons, ce qu'on va faire, ce que je vais vous expliquer la semaine prochaine, ce que je vous ai dit, peut être un prélude à la réforme que notre pays a besoin. Je voudrais que vous compreniez bien ce que je vais vous dire dimanche prochain. Mais mes frères et sœurs, c'est le Seigneur Dieu du ciel et de la terre qui, dans sa bonté infinie, nous dit qu'il y a des gens qui vont nous recevoir dans les tabernacles éternels. Moi, j'ai envie que ça se passe bien. Vous n'êtes pas dans la même pensée ? Être reçu par des gens. Parce qu'on aura fait valoir, je le répète, mais parce qu'il faut répéter. Parce qu'on aura fait valoir l'argent de l'Église. Demain, on a un conseil d'administration. Priez. Quand on nous demande, Monsieur Gau, il faudrait une moto pour un pasteur en Inde qui ne peut pas se déplacer. Ça coûte combien ? 1000 euros. Si Monsieur Bordeneuf, on a besoin de 5 tonnes de 1000, combien ça coûte ? 1000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez ? On le fait pour le Seigneur. Tout l'argent, je vais pouvoir vous dire que tout l'argent, nous essayons vraiment de l'utiliser de la façon la plus sérieuse qui soit. Un conseil d'administration, c'est sérieux. Vous le croyez, frère et soeur ? Est-ce que vous comprenez mieux cette parabole ? Être reçu dans les tabernacles éternels. Quelle grâce, frères et sœurs. Combien de gens vont vous accueillir, comment Dieu doit... Quand on voit comment Dieu sait faire, laissez-moi vous dire que ça doit être vraiment bien. Vous avez envie d'être bien accueilli dans les tabernacles ? C'est pour ça, je vous le dis, je sais que je ne parle pas souvent d'argent. Mais moi, je vous conseille, mes frères et sœurs, de vous poser la même question. Que ferais-je ? Puisque le Seigneur me montre que s'il peut être très sévère avec les pharisiens, c'est bien, ils en avaient besoin, c'est facile de dire, ah, ça c'était pour lui. Des fois, on a des gens qui donnent des coups de coude, ça c'est pour toi. On le voit, les gens sont très discrets en plus. Mais mes frères et sœurs, si Dieu veut parler sévèrement à des pasteurs ou à des pharisiens, c'est une chose. Mais que nous ayons l'intelligence de savoir comment Dieu veut nous parler à chacun. Avant de commencer à dire, c'est eux qui ont besoin d'être repris en premier, commençons-nous dans l'Église à nous poser la question, qu'est-ce que je ferais, puisque moi aussi je devrais rendre compte de l'administration de mes biens.